Dans cette vidéo, nous aborderons les conséquences géographiques des évolutions de l'économie qui s'effectuent par cycles successifs. Les villes tentent de capter les bénéfices de ces cycles puisqu'ils produisent à la fois croissance économique et croissance démographique. Les conséquences spatiales de ces différents cycles se retrouvent à tous les niveaux des systèmes de villes et ainsi les villes sont en concurrence pour l'attraction de ces innovations. Elles peuvent capter ces innovations de différentes manières, soit par anticipation, soit par imitation, par exemple, mais ces innovations vont largement se propager via un certain nombre de réseaux, et donc les innovations dont on parle ici, correspondent à des inventions socialement adoptées qui vont se propager via ces différents types de réseaux. La croissance des villes, qui implique création de richesses et emplois nouveaux, est ainsi largement liée à ces innovations, puisque les innovations vont apporter des emplois nouveaux au sein des villes, et ainsi on peut très largement relier croissance des villes et cycle d'innovation. Ces innovations apparaissant sous forme de cycle, comme l'on peut le voir sur le document présenté ici. Avec tout premièrement les cycles de Kondratiev, adaptés ensuite par Schumpeter et son concept de destruction créatrice. On voit apparaître ici différents cycles économiques qui se succèdent dans le temps, avec tout d'abord la mécanisation de l'industrie dans la deuxième partie du XVIIIe siècle et la première partie du XIXe siècle, puis le développement de la vapeur, du chemin de fer et de la finance. L'électricité, l'industrie, puis la motorisation et le fordisme. Et enfin, à la fin du XXe siècle et désormais au cours de ce XXIe siècle, un nouveau cycle d'innovation basé sur les activités autour de l'informatique, des réseaux et des biotechnologies. Si l'on fait un zoom sur ces cycles d'innovation urbaine en Europe, on peut observer que ces cycles se succèdent dans le temps, dans des pas de temps de plus en plus restreints, là où un premier cycle que l'on peut considérer ici comme le commerce maritime s'étalait sur plus de 2 siècles, les cycles apparus lors de ces dernières décennies entrent en période de déclin beaucoup plus rapidement. Et donc on a une succession beaucoup plus rapide des cycles économiques et des cycles d'innovation lors de ces dernières décennies. Ces cycles d'innovation, ils vont se diffuser dans les systèmes de villes que l'on étudie. Cette diffusion, elle va se réaliser de différentes manières, soit par contact, par proximité géographique, avec de faibles distances entre les personnes touchées, c'est notamment le cas pour les épidémies, pour les innovations agricoles, par exemple. Cette diffusion, elle peut aussi s'effectuer par connexité, le fait d'être relié par un même réseau, par exemple, ou par proximité sociale. Et ainsi, ce que l'on va observer, la traduction spatiale de tout ceci, c'est la diffusion hiérarchique des innovations. Prenons un exemple ici, avec les travaux précurseurs de Thorsten Egerstrand sur les Rotary Clubs européens. Ce que l'on observe entre 1922 et 1950, c'est une diffusion d'un nombre restreint de points vers l'ensemble du territoire européen de ces Rotary Clubs. Mais lorsque l'on regarde la manière dont se diffuse cette innovation au sein du système de villes européen, on peut voir que cette diffusion ne se fait pas de proche en proche, mais effectue un certain nombre de sauts dans l'espace, en touchant d'abord de grandes villes avant que ceci se diffuse vers des villes plus restreintes, villes moyennes ou villes plus petites. Autre exemple à partir des travaux de Céline Rosenblatt sur les firmes transnationales ou firmes multinationales en Europe. Lorsque l'on observe les liens qui unissent les sièges des multinationales et leurs filiales dans d'autres villes européennes, on peut observer un lien très fort entre Londres et Paris en 1990 et le très faible nombre de villes qui sont reliées les unes aux autres en 1990. 6 ans plus tard, Londres et Paris sont toujours reliés par un nombre approximativement similaire de liens reliant donc ces sièges sociaux et ces filiales. Mais ce que l'on peut observer, c'est une diffusion hiérarchique de cette innovation, en considérant ceci comme une innovation, avec donc un nombre plus important de villes qui sont concernées. Les villes les plus importantes sont concernées dans un premier temps, et petit à petit, on observe une diffusion vers des villes moyennes et ensuite potentiellement vers de petites villes. On a donc différentes étapes dans la diffusion de ce cycle d'innovation dans un système de ville. Sur le graphique en bas à droite de ce document, nous avons deux cycles d'innovation qui sont représentés en rouge, en orange puis en vert selon les trois temps de ce cycle d'innovation, avec un poids de plus en plus important de ce cycle d'innovation en début de cycle qui apparaît donc en rouge, une stagnation de ce cycle en orange et enfin le déclin du cycle d'innovation qui apparaît dans un temps 3 en vert. Et ce qui apparaît dans la partie haute de ce document, ce sont les villes qui sont concernées soit par le T1, soit par le T2, soit par le T3 de ces cycles d'innovation. Dans le premier cas, lorsque le cycle d'innovation numéro 1 est en émergence, les activités se localisent principalement dans les grandes villes. Ici, les villes moyennes et les petites villes apparaissent en blanc, mais ce sont les grandes villes qui sont concernées les premières par ces activités reliées à ce cycle d'innovation. Dans un deuxième temps, quand le cycle va se stabiliser, quand il va arriver à maturation, en quelque sorte, nous aurons des activités banalisées qui se seront diffusées dans les villes moyennes. C'est dans les villes moyennes que se développeront le plus les activités reliées à ce cycle d'innovation. Et enfin, en fin de cycle, quand on a réellement un déclin de ce cycle d'innovation numéro 1, les villes les plus concernées par ce cycle d'innovation numéro 1 correspondront aux petites villes qui apparaissent vraiment en tout petit sur ce document. Mais ce que l'on observe dans un même temps, c'est l'émergence d'un autre cycle d'innovation, un cycle numéro 2. Et ici, les plus grandes villes sont touchées les premières par ce nouveau cycle d'innovation. On a donc succession dans le temps de différents cycles d'innovation. Et au sein d'un cycle d'innovation, on a des villes les plus grandes qui sont touchées les premières, puis des villes moyennes, puis les plus petites villes du système. Et ceci, on peut le relier aux lois d'échelle, comme on le verra un petit peu plus tard au cours de cette présentation. Mais première chose, lorsque l'on se trouve en début de cycle, donc dans la période T1 dont je parlais tout à l'heure, on a donc des activités que l'on peut considérer comme innovantes. Et ces activités innovantes, lorsque l'on va mobiliser les lois d'échelle, nous permettront d'obtenir un paramètre bêta supérieur à 1. J'y reviendrai tout à l'heure. Lorsque le cycle se stabilise ou entre en période de déclin, nous avons des paramètres bêta qui vont largement être impactés et se retrouver soit proche de 1, soit inférieur à 1, ce qui nous permettra de donner du sens à ces cycles d'innovation et aux activités que l'on va observer et d'attribuer la valeur de innovante ou mature, par exemple, à une activité que l'on va observer dans un ensemble de villes comme le système de villes français, américain ou sud-africain, comme dans cet exemple où nous observons les activités de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, le secteur des FIRE, dans ces trois systèmes de villes, donc français, américain et sud-africain. Et dans les trois cas, lorsque l'on représente sur des graphiques la taille des villes du système et la grandeur observée, c'est-à-dire ici le nombre d'emplois dans ces secteurs des FIRE, nous obtenons un nuage de points que l'on peut ajuster par une droite, et la pente de cette droite nous donne le paramètre bêta que j'évoquais précédemment. Dans les trois cas ici, la France, les États-Unis et l'Afrique du Sud, le bêta est très supérieur à 1, ce qui signifie ici que ces secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier sont des activités innovantes dans ces trois contextes géographiques. Mais bien entendu, on peut trouver des paramètres bêta différents selon le contexte géographique. Si l'on s'intéresse par exemple à l'industrie, de la même manière sur la France, les États-Unis et l'Afrique du Sud, on peut en aboutir à la conclusion que en France, ce secteur de l'industrie est mature et concentré dans les petites villes, étant donné ce paramètre bêta de 0,89. On a donc une concentration plutôt dans les petites villes de ce secteur de l'industrie, alors qu'en Afrique du Sud, ce secteur de l'industrie est toujours innovant, toujours concentré dans les plus grandes villes du système de villes. Donc selon le contexte géographique, on peut avoir des cycles d'innovation qui peuvent être décalés dans le temps, par exemple. Pour observer les choses un petit peu plus en détail, on peut chercher à observer la concentration des activités innovantes dans les plus grandes villes d'un système de villes national. Et pour ce faire, on utilise ici les analyses en composantes principales qui permettent d'observer les profils d'activité économique de chacune des villes du système en établissant les corrélations qu'il y a entre les différents secteurs d'activité. Ceci pour extraire les grandes oppositions qualitatives que l'on retrouve dans les profils économiques urbains. Et une des deux oppositions qualitatives majeures que l'on retrouve dans le système de villes français, c'est une opposition entre services spécialisés aux entreprises d'un côté et activités traditionnelles de l'autre côté. Donc une de ces grandes oppositions concerne bien des activités innovantes et des activités plus traditionnelles. Et la traduction spatiale de tout ceci, lorsque l'on observe cette carte, c'est donc que les grandes villes sont toutes, figurent toutes ici en rouge et donc présentent une surreprésentation des services spécialisés aux entreprises, alors que les petites villes, ici, présentent une surreprésentation d'activités plus traditionnelles. Et donc, on peut s'attendre à une diffusion au cours du temps de ces services spécialisés aux entreprises, mais on est bien ici dans la première partie de ce cycle d'innovation associé aux services spécialisés aux entreprises. On peut réaliser la même analyse sur le cas américain, avec ici une opposition majeure entre les Advanced Producer Services et les services de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, qui s'opposent à des activités plus traditionnelles, par exemple l'industrie agroalimentaire. Et donc là aussi, on a cette même opposition entre grandes villes d'un côté, ici en orange, et donc qui présente cette surreprésentation d'activités innovantes, et les petites villes où on a une surreprésentation d'activités traditionnelles et qui figurent donc ici en bleu. Enfin, même analyse pour l'Afrique du Sud et même conclusion. Cette fois-ci, cette opposition majeure est la première opposition que l'on obtient dans cette analyse en composantes principales. Et là encore, on a une opposition entre des secteurs innovants qui sont, lorsque l'on regarde la carte, concentrés dans les grandes villes, Johannesburg ou le Cap par exemple, alors que les surreprésentations d'activités traditionnelles correspondent uniquement à de plus petites villes. Nous avons donc une diffusion hiérarchique des innovations au sein des systèmes de villes. Et les effets principaux de cette diffusion hiérarchique correspondent premièrement au renforcement des inégalités de taille des villes dans le système, ce qui s'observe notamment avec cette augmentation de la pente rentaille ou de la pente de la règle de Zipf qui est observée ici dans le cas français. Mais au-delà de cette inégalité de taille de ville qui se renforce au cours du temps, nous observons également une coévolution socio-économique des différentes villes d'un système de villes. Nous avons ici les deux premiers facteurs obtenus par une analyse en composantes principales, là encore pour voir quelles sont les grandes oppositions dans les profils économiques des villes, ici des villes américaines, et il s'avère que toutes les villes suivent une trajectoire plus ou moins similaire. Et nous avons ici la trajectoire moyenne parmi les plus grandes villes de ce système de villes américain. Toutes les villes suivent cette même trajectoire de coévolution socio-économique vers des services en nombre plus important et vers de l'industrie high-tech en représentation plus importante. On peut regarder plus précisément la trajectoire de Détroit, par exemple, ou la trajectoire de Miami, qui sont deux villes bien particulières, l'une spécialisée dans des activités liées à l'automobile, l'autre spécialisée dans des activités liées à la finance ou alors au tourisme. Et ce que l'on observe, c'est que toutes les deux suivent une trajectoire relativement similaire. Elles sont toutes les deux dans cette trajectoire de coévolution socio-économique des villes. Simplement, elles partent d'états bien spécifiques et bien différents, mais elles suivent bien les mêmes trajectoires. Les villes sont donc à la fois des lieux de production des innovations et les produits de ces mêmes innovations. Et donc les villes participent à cette innovation, et cette innovation va en retour participer à la croissance des villes au sein de notre système. Mais cette croissance, elle va se faire en favorisant très largement les plus grandes villes. Et donc, on va observer un accroissement des inégalités de taille des villes dans le système, très largement liées à cette diffusion hiérarchique des innovations.